le grand véhicule voyagea en Chine et au-delà. À côté du Theravada, l'autre grand courant du bouddhisme est le Mahayana, ou grand véhicule, selon l'appellation choisie par ses fondateurs eux-mêmes. Ce courant exalte le modèle spirituel du Bodhisattva, cet être d'éveil qui se dévoue à la libération de tous les êtres en plus de la sienne. Alors que le Theravada s'est implanté au sud de l'Inde, au Sri Lanka et dans d'autres pays, le Mahayana, qui survit aujourd'hui, s'est transmis à l'origine du nord de l'Inde vers l'Asie centrale. De là, il s'est peu à peu diffusé en Chine, au 1er siècle de notre ère, et puis il est passé en Corée, au 4e siècle, et au Japon, au 6e siècle. De Chine, il s'est aussi propagé vers le Vietnam et le Tibet, au 7e siècle, bien qu'une transmission ultérieure ait aussi directement amené le bouddhisme au Tibet depuis l'Inde. L'histoire détaillée du mouvement Mahayana à travers l'Asie est en fait bien plus complexe que cette brève esquisse ne semble le suggérer, mais elle a le mérite d'être suffisante pour vous donner une idée sur le sujet. Alors que le bouddhisme voyageait d'une culture asiatique à l'autre, la tradition continuait son évolution là où elle avait vu le jour, en Inde, et des enseignements complémentaires, les divers sutras en sanskrit que nous présentons au chapitre 4, émergèrent. Il devait considérablement changer le visage du bouddhisme Mahayana. Ces écritures différentes finirent par constituer la base des diverses traditions du Mahayana qui émergèrent dans toute l'Asie. Bien que le bouddhisme Mahayana soit né en Inde, une grande partie de son développement ultérieur eut lieu en Chine. Pourtant, lorsqu'il arriva au 1er siècle de notre ère, on ne peut pas dire que les Chinois l'accueillirent à bras ouverts. Ils étaient fiers de leur civilisation, qui, entre autres choses, avait engendré deux grandes traditions philosophiques, le confucianisme et le taoïsme, et considéraient avec dédain ce qui venait de pays étrangers et barbares. En outre, l'emphase du bouddhisme sur la nature insatisfaisante de la vie de ce monde et la nécessité de s'en libérer ne passait pas bien auprès de nombreux Chinois. Ces idées semblaient être en conflit avec l'idéal confucéen d'un univers bien structuré dans lequel les choses fonctionnent de façon harmonieuse si vous exécutez simplement le rôle correct qui vous est assigné. Mais la dynastie Han s'effondra en l'an 220. Cet événement balaya le sens de sécurité et de stabilité que les Chinois connaissaient depuis des siècles. Dans la période d'incertitude qui suivit, de nombreux Chinois trouvèrent le réconfort dans la nouvelle foi provenant de l'Inde, qui parlait de cette impermanence que leur société était en train de connaître. Ils commencèrent aussi à remarquer certaines similitudes entre le bouddhisme et le taoïsme et mirent en équation le Tao, la voie, enseigné par leur philosophie nationale avec le dharma expliqué dans le bouddhisme. Pendant tout ce temps, les enseignements bouddhistes continuaient d'arriver en Chine avec les marchands et les moines en route vers l'est de l'Asie centrale. En outre, plusieurs Chinois firent le long et difficile voyage en Inde pour en apprendre davantage sur le bouddhisme à sa source. Écoutez le passage « L'évolution du bouddhisme chinois ». En fait, une bonne partie des connaissances qu'ont les historiens de l'état du bouddhisme en Inde au cours du premier millénaire de notre ère provient des témoignages et des récits écrits par ces anciens pèlerins chinois. À travers les siècles, le bouddhisme continua à se développer et à évoluer en Chine jusqu'à ce qu'émergent plusieurs traditions plus ou moins distinctes les unes des autres. Chaque tradition était principalement associée à des préceptes spécifiques d'origine indienne, mais chacune possédait aussi son propre parfum exclusivement chinois. Nous disons « plus ou moins distinctes » parce que selon la vénérable manière chinoise, ces diverses traditions avaient tendance à s'influencer mutuellement et à s'emprunter des éléments de leurs enseignements respectifs. Aujourd'hui encore, les Chinois ne se considèrent pas comme appartenant exclusivement à une religion. Ils observent des éléments de bouddhisme, de confucianisme et de taoïsme, et ajoutent même à ce mélange, ou syncrétisme, des éléments de culte des esprits, sans que cela ne les gêne aucunement. Durant l'apogée du bouddhisme en Chine, au 5e et 6e siècle, de nombreuses écoles bouddhiques prospérèrent. En voici une liste des plus importantes, accompagnée de l'indication des sutras, discours du Bouddha, sur lesquels elles se fondent. Le Tiantai. Fondé sur le sutra du lotus, écoutez le chapitre 4, Cette tradition fut nommée d'après une montagne célèbre en Chine. Pour en savoir plus, écoutez le passage « Les grands systèmes unificateurs du Huayen, guirlande de fleurs, et du Tiantai, lotus blanc », plus loin dans ce chapitre. Le Huayen, fondé sur le sutra de la guirlande de fleurs, cette tradition est à l'origine du Kegon au Japon. Écoutez le passage « Les grands systèmes unificateurs du Huayen, guirlande de fleurs, et du Tiantai, lotus blanc », plus loin dans ce chapitre. Le Mitsung, appelé « l'école des secrets ». Cette tradition qui n'a duré que relativement peu de temps en Chine a survécu au Japon, où elle est devenue le Qigong. Écoutez le passage « Le Vajrayana en Inde, en Chine, au Japon et au Tibet », plus loin dans ce chapitre, pour en savoir plus sur les variantes chinoises et japonaises de cette tradition. Le Jingtu, fondé sur les sutras de la béatitude suprême et de la terre pure. Écoutez le chapitre 4. Cette tradition appelée aussi « terre pure chinoise » a inspiré le développement du Jodo-shu et du Jodo-shinshu au Japon, qui forment la tradition de la terre pure japonaise. Écoutez le passage « L'avènement de deux écoles de la terre pure au Japon » plus loin dans ce chapitre pour plus de détails. Le Chan, appelé Chan en Chine et Zen au Japon. La tradition de la méditation affirme être fondée sur une transmission directe et sans parole de la pénétration, comme nous l'expliquons dans le passage consacré au bouddhisme zen plus loin dans ce chapitre. Les sutras de Vimalakirti, de la perfection de la sagesse et de Lankavatara, influencèrent fortement le développement de cette tradition. Ne vous laissez pas intimider par cette liste plutôt longue de termes exotiques. Nous les mentionnons simplement pour vous donner une idée de la richesse et de la diversité du bouddhisme chinois à son apogée. Le bouddhisme a prospéré en Chine parce qu'il avait quelque chose à offrir à quasiment tout le monde. Sa sophistication impressionna les élites intellectuelles qui s'en inspirèrent et firent elles-mêmes leur propre contribution à la philosophie bouddhiste. Et bien que la philosophie sophistiquée n'ait eu aucun attrait pour les masses non instruites, la promesse de salut universel, elle, en revanche, en avait. Les gens du peuple se sentirent en conséquence davantage attirés vers les pratiques bouddhiques et dévotionnelles. Ils se mirent à invoquer les bodhisattvas compatissants, comme Kuan Yin, pour qu'ils les aident dans leur vie, et à vénérer les bouddhas cosmiques, comme Amitabha, pour qu'ils les aident dans la vie suivante, comme nous l'expliquons dans le passage « Le Jingtu, terre pure » et d'autres écoles dévotionnelles, plus loin dans ce chapitre.
Les monastères Theravada s'implantent en Occident. Des centres de méditation pour les laïcs ne constituent que l'une des ramifications occidentales de la tradition Theravada de l'Asie du Sud-Est. Les disciples d'Ajahn Chah et ceux d'autres maîtres ont fondé plusieurs centres en Europe, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et ailleurs, là où les hommes et femmes peuvent suivre le style de vie traditionnel d'un moine ou d'une nonne Theravada sans quitter leur pays d'origine. Par exemple, Ajahn Sumedho, le premier disciple américain d'Ajahn Chah, fonda le monastère Amaravati en Angleterre, et l'un des moines qu'il forma, Ajahn Amaro, est maintenant l'abbé du monastère Abayagiri de Californie. Écoutez le chapitre 8 pour un aperçu de la vie de ce monastère. Bien que ces centres soient petits par rapport à leur pendant asiatique, ils entretiennent la tradition monastique avec pureté et authenticité, ce qui présage favorablement de l'avenir du Theravada en Occident. En France, plus précisément, Denis Girard, le directeur adjoint de l'Institut de sciences et de théologie des religions à l'Institut catholique de Paris, indique dans son livre « Le bouddhisme à l'usage de mes filles », édition du Seuil, qu'il existe environ 130 centres et temples tibétains et environ une centaine de centres zen, d'inspiration japonaise le plus souvent, mais aussi coréenne, vietnamienne ou chinoise. Il existe également plusieurs dizaines de centres de tradition du sud-est asiatique qui avaient été créés à l'origine pour répondre aux besoins spirituels des immigrés et réfugiés d'Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, Vietnam.
Le bouddhisme plaisait aussi à plusieurs puissants souverains de région, en partie parce qu'ils étaient d'avis qu'une population formée à la moralité et à la non-violence serait plus facile à gouverner. Plusieurs de ses souverains se mirent aussi à croire que les moines bouddhistes, en vertu de leur ordination et de leur mode de vie empreint de maîtrise de soi, possédaient certains pouvoirs magiques. Afin de protéger leurs sujets, de même que leur position personnelle, ces gouverneurs locaux essayèrent de garder auprès d'eux ces moines en faisant tout ce qu'ils pouvaient pour promouvoir le bouddhisme. Malgré l'attrait du bouddhisme, l'opposition qu'il suscitait était forte et profondément enracinée. Les conflits qui souvent éclataient entre les partisans du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme relevaient en réalité moins de différences de croyances que de luttes intéressées de divers groupes afin d'obtenir une part plus grande de l'aide et de la protection du gouvernement. Les adversaires du bouddhisme accusèrent souvent les bouddhistes de promouvoir des valeurs anti-chinoises, parce que nombre d'entre eux, et surtout les moines, semblaient ne pas s'acquitter de leurs obligations sociales et familiales. Il résulta de ces facteurs et d'autres que l'influence des différentes traditions bouddhiques chinoises montait et baissait selon les circonstances.
L'évolution du bouddhisme chinois. Pour vous faire une idée des manières très différentes dont les diverses écoles de bouddhisme ont pu évoluer en Chine, imaginez-vous que vous habitez dans la partie occidentale de ce pays, dans la région la plus proche de l'Inde, vers le 3e ou le 4e siècle. L'un de vos amis vous montre une traduction en chinois d'une écriture bouddhiste et vous la trouvez fascinante, mais difficile à comprendre. Comme les Chinois devaient encore développer un vocabulaire pour les concepts bouddhistes, les premières traductions du sanskrit étaient imprécises, c'est le moins que l'on puisse dire. Comme vous avez un penchant pour la vie spirituelle et que vous avez envie de découvrir le sens profond de ce que vous lisez, vous vous mettez en route pour le long et difficile voyage en Inde afin de trouver un instructeur et un monastère où vous pourrez étudier le bouddhisme. Il se trouve que les écritures enseignées dans le premier monastère sur votre route ne sont pas les mêmes que celles que vous avez lues à l'origine. Le bouddhisme subissait un développement rapide et de nouveaux enseignements surgissaient de partout. Les nouvelles écritures vous plaisent encore plus que celles que vous avez lues à l'origine, parce qu'elles proposent un tableau bien plus compréhensible de la pensée et de la pratique bouddhique. Après des années d'études intensives en tant que moine, vous maîtrisez ces nouveaux préceptes, vous participez à leur traduction en chinois et vous rentrez chez vous pour les partager avec d'autres. Alors que cet enseignement gagne de la popularité, il est possible qu'il évolue pour devenir une tradition, ou une école distincte chinoise de bouddhisme Mahayana. C'est comme cela que différents pèlerins chinois partirent en Inde pour en rapporter différentes versions de bouddhisme. Et c'est ainsi qu'ils diversifièrent le paysage bouddhiste en Chine dans la première partie du premier millénaire.
En fait, c'est le bouddhisme dans son ensemble qui eut de nombreux hauts et bas en Chine. En fait, c'est le bouddhisme dans son ensemble qui eut de nombreux hauts et bas en Chine. Parfois, il profitait de la protection de groupes au pouvoir, à d'autres occasions, il faisait l'objet de persécutions acharnées. Le dernier retour de manivelle se produit en 845, lorsqu'en application d'une ordonnance impériale, les monastères bouddhiques furent démantelés et leurs biens confisqués. L'empereur retira rapidement son ordonnance, mais pas avant que le bouddhisme chinois n'ait amorcé un long et lent déclin dont il ne se remit jamais complètement. Après avoir fait l'objet de persécutions au IXe siècle, le bouddhisme survécut en Chine pendant plus de 1000 ans et eut même certaines heures de gloire, mais il ne recouvra jamais la vitalité qu'il avait eue auparavant. Au XXe siècle, le bouddhisme de Chine dut affronter les défis supplémentaires posés par le christianisme, introduit par les missionnaires occidentaux, et le communisme. La révolution culturelle des années 1960 et 1970 eut des effets particulièrement dévastateurs. Elle détruisit de nombreuses institutions bouddhiques et affaiblit encore plus une communauté déjà sérieusement réduite. En outre, depuis le milieu des années 1950, le gouvernement chinois mène une politique active d'éradication du bouddhisme au Tibet en démantelant des monastères et en poursuivant de nombreux fidèles. Bien que d'authentiques pratiques bouddhiques subsistent encore à Taïwan, il est actuellement impossible de prédire si le bouddhisme refera un jour surface en Chine continentale.